Vivante Église.
Vivante Église.
Vivante Église, une émission proposée par Isabelle Duché.
En ce début de carême, quoi de mieux que de se désencombrer? Et si nous décidions de nous détacher de notre smartphone pour disposer de plus de temps pour Dieu et pour notre prochain? C'est ce que propose l'invité de Radio Présence aujourd'hui. Bonjour frère Tanguy-Marie Pouliquin.
Bonjour, bonjour à tous.
Vous êtes prêtre au sein de la communauté des Béatitudes, professeur en éthique à l'Institut catholique de Toulouse et vous venez de publier ce dernier ouvrage, Libéré, délivré de mon smartphone, 10 jours pour reprendre le contrôle aux éditions première partie. Quel constat avez-vous fait pour vous inciter à écrire ce livre?
Le problème est endémique. Hein. C'est un peu comme une grande maladie. Tout le monde est concerné, tout le monde est attaché à son smartphone. 9 personnes sur 10 l'ont dans leur chambre à coucher, 4 personnes sur 10 dans leur lit. Les couples passent la fin de leur journée devant leur smartphone allongés dans leur lit l'un à côté de l'autre.
Donc il n'y a plus de communication. Hein.
Et il y a un risque pour même l'amour conjugal. C'est un problème endémique qui touche particulièrement aussi psychologiquement les plus jeunes.
La fameuse génération Z,
la génération alpha maintenant, plus 150% de problèmes de dépression liés à l'utilisation du smartphone. C'est des chiffres qui viennent d'abord des États-Unis, mais on peut quand même se dire que c'est un peu chez nous pareil.
Et le Romano Guardini et puis le pape François ont aussi alerté sur les dangers de cette consommation excessive de ces smartphones. Il a mis en lumière le manque d'éducation nécessaire permettant à l'homme de vivre humainement face à ces avancées techniques.
Oui, tout l'enjeu n'est pas d'éliminer le smartphone. C'est pas blanc ou noir. La zone non plus. J'aime pas le mot gris non plus. C'est une question de posture. Moi, une de mes thèses, c'est de dire l'avenir du monde dépend de notre posture par rapport aux écrans. Les écrans font écran. Vous voyez, c'est cette belle phrase de Jean d'Ormesson qui dit les écrans font écran. Donc, il faut éviter qu'ils fassent écran à la réalité, à la relation. Et il faut que les écrans soient bien utilisés. En France, le smartphone, c'est 3h30 par jour, par personne, en moyenne. 75% des recherches sur Internet se font sur le smartphone. 9 personnes sur 10, alors particulièrement les jeunes, le sentent vibrer dans la poche alors qu'ils ne vibrent pas.
Ah oui.
Donc il y a une extension quasiment psychobiologique du smartphone avec nous-mêmes. Donc nous fusionnons, en tout cas aujourd'hui psychologiquement, avec ce smartphone que les gens allument 220 fois par jour.
C'est une excroissance de la main. Hein.
C'est une excroissance, c'est une prothèse. Alors, les prothèses, on en a déjà dans les oreilles, dans les dents, dans les genoux, etc. Il peut y avoir des bonnes prothèses. À nous de bien nous positionner avec cette prothèse. D'abord, ayons conscience que c'est une prothèse. Les gens ont plus de difficultés à se détacher de leur smartphone que d'arrêter de fumer.
Oui, et d'ailleurs, vous proposez un des défis dans votre ouvrage, c'est d'essayer de se passer de son smartphone, ne serait-ce qu'une demi-journée. Et je pense que si nous essayions, nous aurions beaucoup de mal.
Ben, à chacun. Bon entendeur. Il y a un carême devant, c'est un lieu où on peut, avec la présence de Dieu, la grâce de Dieu, vous voyez, souvent, il y a un auteur contemporain, il y a Marcel Gauchet, qui dit c'est le syndrome du remplissage du vide, le smartphone. Le carême, c'est le remplissage du plein de la grâce, du plein de la vie, du plein de l'amour, du plein de la relation. Donc, retrouvons le sens beau de la relation en direct, face à face, sourire, et non pas caché derrière notre écran tout seul.
Alors vous avez utilisé ce titre du film de La Reine des Neiges, Libéré, délivré, et c'est vrai que vous insistez beaucoup dans votre livre sur la liberté. En quoi le smartphone vient-il l'entraver et quelle liberté est à retrouver?
Alors, la liberté à retrouver, c'est une liberté pour un bien. Ce n'est pas une liberté seulement individuelle d'être isolé. C'est d'ailleurs l'enjeu d'ailleurs sociétal aujourd'hui de la liberté entre une liberté d'indépendance et une liberté, en fin de compte, de service, de don de soi. Ma liberté, elle est pour les autres. Benoît XVI disait même elle est pour tous les autres. C'est une liberté hyper inclusive qui va créer du lien relationnel, d'ailleurs à partir du service du plus pauvre. Et la mauvaise liberté, ben, ça va être une liberté de refuge, d'isolement. On prend les jeunes, génération Z, 30% d'interactions sociales en moins que la génération précédente.
C'est énorme.
Et c'est des choses qu'on ne voit pas immédiatement. Parce qu'on a l'impression qu'ils sont ensemble, ils sont ensemble avec leur smartphone, mais ils ne sont pas en interaction. Ils vont moins au cinéma, ils se retrouvent moins entre amis, ils se baladent moins dans les drugstores, ils font moins le shopping. Ils sont derrière leur écran à regarder des petites vidéos.
Et vous écrivez, frère Tanguy Marie Poulenquin, dans votre ouvrage que cette liberté, c'est décider librement sa vie en vue du plus grand bien discerné.
Oui, le plus grand bien, bah, j'ai une conscience. Ouais, ce qui est bien, c'est que avec ces temps où on s'est dégagé de notre smartphone, on se réapproprie notre désir, notre silence intérieur, notre conscience intérieure. Et puis à ce moment-là, on peut formuler personnellement et non pas par induction extérieure, des faiseurs d'opinion, avec toutes ces pubs, notre propre bien et un bien qui s'élargit. Au niveau du bien commun, bien personnel, bien des autres, bien commun. Et après, en agissant avec ma bonne intention, de l'intérieur de moi-même vers l'extérieur, je transforme ce bien personnel en un bien pour l'autre. Et tout le monde est gagnant, parce qu'il y a une rétroaction du bien pour les autres sur moi. Faire le bien fait du bien. C'est bien bon de faire le bien.
Faire le bien fait du bien. Vous écrivez dans votre ouvrage, les écrans fragmentent souvent l'attention, modifiant notre rapport au temps et à l'espace, alors que le temps est le messager de Dieu. Est-ce que vous pourriez nous expliquer?
Oui, messager de Dieu, cette citation de Pierre Fabre, hein, Saint Pierre Fabre, ce grand jésuite, un hein, premier prêtre de la Compagnie de Jésus, le temps messager de Dieu. Voilà, aujourd'hui dans une culture de l'immédiateté, hein, donc du chronos, on sait que le chronos peut être chronophage, dans la mythologie grecque, le chronos, c'est celui qui finit par manger ses enfants. Donc le temps court finit par nous manger. Et finalement, accroître une charge mentale, je dirais, de manière chronique, de manière permanente. Donc, le temps, prendre le temps, les processus de vie, les processus de relation, d'affection, les processus de rencontre, d'action de Dieu, de sa grâce, ça prend du temps parce que c'est comme une plante qui pousse, une bonne plante qui pousse. Nous sommes des bonnes plantes qui poussent au soleil de l'amour, hein, de la présence de Dieu, des bonnes relations, et ça prend du temps. Alors qu'aujourd'hui, on devient des impatients.
Ah oui.
Voilà, c'est le Bergson disait, le temps, c'est l'espace de notre attention. Une magnifique citation, vous voyez. L'espace de notre attention. Et aujourd'hui, au plan éducatif, il y a un esprit qui est dersé, qui est agité, et donc il y a des implications à trois niveaux. Il y a une perte de concentration, après une perte d'attention, et après une perte d'intention. Et sous-entendu, quand j'agis, c'est plus moi avec tout mon être qui agit, mais j'agis sous l'effet d'induction. Extérieur, voilà. Et ces inductions, ben, elles me formatent et au finish, ben, je me sens mal à l'aise parce que je fais des choses qui ne me correspondent pas en profondeur.
Et d'ailleurs, vous dites que refuser de prendre son temps, c'est refuser l'œuvre de Dieu. Ça va loin quand même. Est-ce
Oui,
qu'on en est conscient?
bien sûr, parce que Dieu a pris son temps, ben, pour faire la terre et il a pris son temps pour accompagner notre croissance. Et vous voyez, c'est l'idée de croissance. Dieu veut que l'on soit toujours en croissance de vie. Et le fait de zapper en permanence nous fait court-circuiter le processus,
Le temps de Dieu.
le temps de Dieu, et qui devient le temps de Dieu au milieu des hommes, le temps de la rencontre, le temps de se laisser toucher par un regard, par un bonjour, par le besoin de l'autre, par une parole. Tout cela, oui, se laisser être touché. Et répondre à cela par le don de soi. Oui. d'immédiateté. Non, on a besoin de médiation. Et la médiation, c'est la relation d'abord. Et puis c'est goûter, d'ailleurs, au plan environnemental, prendre le temps de marcher.
Contempler. Voyez,
à la fin de chaque chapitre, il y a « je suis délivré pour ». Pourquoi ? Pour quelque chose de très concret. Délivré, libéré, j'en profite pour aller voir un proche, pour écouter en profondeur quelqu'un, pour faire quelque chose de créatif.
Mmh. Voyez, on est dans la qualité de la relation.
Être dans l'incarnation.
Ouais, être présent.
Les écrans, finalement, nous fragmentent nous-mêmes entre notre corps, notre âme et notre esprit. Ils éliminent notre corps, les écrans. Ils nous amènent dans un monde un peu parallèle, un peu imaginaire, que les réseaux sociaux veulent suractiver, parce que c'est comme ça qu'elles prennent notre liberté individuelle. Ouais. Et plus on passe de temps, seul devant un écran, plus on peut recevoir des publicités et plus on peut nous prendre nos données.
Mmh. Eh oui, bien sûr. Alors, votre ouvrage « Libéré, délivré de mon smartphone, 10 jours pour reprendre le contrôle », vous proposez un parcours en 10 étapes pour reconquérir sa liberté et vivre plus en profondeur spirituellement. Comment se déroule, frère Tanguy Marie Poulikin, une séance quotidienne ?
Alors, la séance quotidienne, elle commence d'abord par se mettre en présence de Dieu. Voyez. Donc, l'idée de fond de cet ouvrage, c'est de se demander si la ressource spirituelle n'est pas la meilleure ressource pour bien utiliser son smartphone. Voyez. On peut prendre un point de départ un peu ignatien. L'homme est fait pour louer, vénérer, servir Dieu et par là sauver son âme. Donc avoir une posture, on pourrait dire, en présence de Dieu, une posture d'abord d'intériorité, pour après être libre en face de notre écran. Donc d'abord, c'est une méditation. Donc il y a un thème, après il y a une méditation.
Donc avec un texte de la parole de Dieu ?
Oui, après j'écoute la parole de Dieu. Donc une introduction, une méditation, donc un petit commentaire, une sorte de stimulation.
Exhortation.
Exhortation. J'écoute la parole de Dieu. J'écoute la parole de Dieu. Après je prie. Hein je prie aussi à l'Esprit Saint, je demande une grâce, et après je mets en pratique. Voilà.
Donc un petit exercice.
Voilà, donc l'exercice, il est la réponse à une intériorité qui s'est développée en moi. Voilà, c'est pas tant du volontarisme, je fais mon petit règlement, je fais mon rétro-planning, et puis j'ai un objectif, mais comme si cet objectif il est extérieur à moi. Non, c'est de l'intérieur à l'extérieur. Si on prend une vision un peu plus synthétique chez saint Augustin, ben, du supérieur, la présence de Dieu à l'intérieur, mon désir, et de mon désir revisité, mon intériorité revisitée, ben, je vais à l'extérieur. Ben là, je me repositionne par rapport à mes écrans. Donc, je mets en pratique un petit exercice du jour, un conseil psychologique, et après, des éléments pour se former, pour comprendre de fond les enjeux, les problèmes. Voilà, une formation. Et on finit par, et concrètement, libéré, délivré, j'en profite pour concrètement faire le bien.
De ce temps de gagner. Voilà. Et donc, c'est une séance, on va dire, qui dure combien de temps ?
15 minutes.
15 minutes par jour.
15 minutes par jour, et en 10 jours, reprendre le contrôle. C'est quand même...
C'est pas un peu rapide, ça, 10 jours, pour changer ses habitudes ?
On lance le processus en 10 jours.
On lance le processus, voilà. D'accord.
Et après, vous savez, le pape François a dit l'importance aujourd'hui dans la vie réelle, c'est pas tant d'avoir des résultats immédiats, c'est de lancer des processus.
C'est la mise en route.
Et le processus, c'est le décollage d'un avion. Et un avion consomme la moitié de son énergie au décollage, avant d'atteindre sa vitesse de croisière, la moitié de son énergie. On connaît les lancements de fusées, ça prend beaucoup d'énergie, etc. Donc là, ce qui est sympa, c'est que c'est dans le prolongement, c'est pas du volontarisme, c'est pas un règlement en plus, c'est d'abord une poussée de l'intérieur qui vient de l'œuvre de la grâce, de ma nature, de mon désir, de mon intelligence. Et je vois, oui, mon plus grand bien, c'est ça. Et comme le bien est désirable, c'est par attraction du bien que je me mets en route, et non pas par devoir. On en a marre des devoirs. Voilà.
On en a marre des devoirs. Quel conseil donneriez-vous pour vivre pleinement ce parcours ?
Alors, ce parcours de se prendre en douceur. Vous voyez, c'est tout au début, il y a des remarques pédagogiques, un parcours à vivre de manière détendue, dans un endroit agréable, idéalement après un temps de silence, s'accueillir là où nous en sommes, avec nos attachements, simplement vouloir aller de l'avant, accueillir notre bonne volonté, tracer un nouveau chemin de vie pour soi, et prendre chaque jour 15 minutes, voilà. Il n'y a pas de cas désespéré. L'important reste d'avancer, de se prendre là où on en est. Tous les beaux chemins de libération sont parcourus par des petits pas, voilà. Et donc, vous voyez, j'aime beaucoup cette phrase de François de Sales qui dit « Si tu ne sais pas d'où tu pars, tu n'iras nulle part ». Et donc, de se prendre là où on en est, ben, peut-être que c'est catastrophique. Hein, vous savez, les jeunes, ils passent 12 heures par jour, parfois, devant leur smartphone. Ben, on le prend là où il en est, à son point de départ. Et ben moi aussi, si je regarde encore mon smartphone à 2 heures du matin, comme 20% des ados, ils ont leur smartphone allumé à cette heure-là, ben voilà, je me prends, mais voilà, on y va en douceur, parce que Dieu nous prend en douceur, la vie nous prend en douceur, et la poussée d'une plante, elle se fait toujours en douceur. On n'a jamais vu un arbre du Liban grandir de 3 mètres en une nuit. C'est toujours une sève. Oui, accueillons la sève de ce qui est vraiment bon pour nous. Et puis, faisons confiance à ce bon désintox qui a tous les éléments pour nous faire aller de l'avant.
Vous précisez dans cette étape de votre ouvrage qu'il faut aussi accepter de vivre à son rythme chaque étape et que peut-être qu'une étape peut durer plus qu'une journée.
Oui, c'est ça. L'important, c'est d'être dans le réel. Hein. Seul le réel réalise. Seul le réel réalise. Donc on peut avoir un idéal, on peut avoir une visée, une perfection. On peut se culpabiliser de se dire « mais non, c'est pas du tout bien ce que je fais, d'ailleurs je regarde n'importe quoi, etc. » Non, de partir du réel, et de ce réel, de se laisser habiter par un désir de vie qui nous dit « bah oui, c'est quand même, ça serait meilleur, ça serait mieux, ça serait bien bon, hein, qu'aujourd'hui, bah, je remplace peut-être ce temps de smartphone le soir en discutant dans la chambre à coucher avec ma femme. Bah, » on va se prendre la main et puis on va se faire des câlins ou on va discuter, voilà, on va être ensemble et non pas on va se représenter dans un autre lieu, alors que l'intimité, ben, c'est l'intimité de la relation, c'est l'intimité avec Dieu, c'est l'intimité avec soi-même et ça, ne nous laissons pas voler notre intimité.
Vous proposez 10 étapes pour se libérer de son smartphone. Nous allons commencer par la première. En tout cas, oui. Qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour démarrer ce parcours ?
Ben, il faut partir du réel, c'est-à-dire de savoir d'où on part. Donc, je prends conscience d'abord que je suis sous influence.
Vous voyez, ça se mesure, ça ?
Comment ça se mesure ? Déjà, regardez sur votre smartphone le temps que vous utilisez votre smartphone ou votre temps d'écran journalier. Bon, il faut distinguer le temps de smartphone et le temps d'écran. Le temps d'écran journalier d'une personne, c'est 8h, 8h30.
Oui, c'est ça.
Avec les ordinateurs, la télé et autres tablettes. Le temps du smartphone, qui est le temps le plus endémique, le plus profond, c'est 3h30. Bah, donc, d'abord, quantifier. Et une bonne manière de quantifier, c'est de se dire, tiens, je vais faire une journée sans écran. Et là, vous allez voir tout de suite l'arrière-plan inconscient de votre vie quotidienne rejaillir. Et là, vous allez avoir un peu un rapport objectif à cette quantification de votre temps d'écran, temps de smartphone, chaque jour. Vous voyez ? Et donc, il faut d'abord prendre conscience qu'on est sous influence et ensuite se dire, j'en suis là. Et est-ce que j'ai envie d'avancer ? Donc j'évalue l'influence de mon smartphone. En gros, d'un point de vue pratique, il prend la place de quoi ? Il prend la place de quoi ? Le soir, il prend la place de quoi ? Le week-end, il prend la place de quoi ?
Oui, mais c'est aussi un outil de travail en semaine.
Oui.
Dans la journée.
Il n'y a pas de problème que ce soit un outil de travail. Simplement que ce soit réellement un outil de travail pour le bien du travail travaillé, à savoir pour le bien de mon entreprise, de mon association, de la relation. Écoutons les feux rouges qui s'allument dans notre tête. Ils disent, non, ça, c'est pas un bien. Ça, c'est un bien. Seule notre conscience individuelle va pouvoir nous donner notre réponse. C'est pas, peut-être qu'on peut écouter quand même nos proches qui nous disent, là, t'exagères. Mais nous-mêmes, on sait quand on est passé au feu orange ou au feu rouge. Et quand on passe au feu rouge, vous savez, c'est, on peut se prendre soit une amende, soit on peut se prendre un 38 tonnes en pleine figure. Donc ça veut dire qu'il y a un dépassement d'une limite et qu'on n'est plus dans une phase constructive. Voilà. Le dernier texte du magistre de l'enseignement de l'Église sur toutes ces questions, hein, Antiqua et Nova, qui est sorti 15 jours avant la sortie de ce livre, donc, que j'ai pu résumer dans le livre, dans une annexe,
In extremis.
J'ai dû négocier un peu avec l'éditeur pour qu'il repousse un peu le bon à tirer. Et ben, c'est de dire d'abord, soyons ouverts à toutes ces évolutions technologiques, mais l'idée de fond évoquée, c'est que développons notre esprit critique et soyons responsables de notre posture. Voyez, donc c'est une approche pédagogique, une approche positive, mais qui nous renvoie à notre responsabilité et qui nous dit ne cherchons pas d'abord à avoir des résultats, que essayons de discerner le vrai bien qui est en jeu. Le bien personnel, le bien collectif, et on voit bien aujourd'hui que ces questions, ce n'est pas simplement des questions personnelles, c'est vraiment des questions sociétales, et l'intelligence artificielle, bon, il faut sortir un peu des fantasmes. Moi, j'organise les deux week-ends, donc le week-end du 7-8 qui a précédé notre émission, et puis le week-end suivant à Conques, j'irai avec les entrepreneurs dirigeants chrétiens des journées d'études sur l'intelligence artificielle. Mmh. Voilà, donc soyons dans le réel. D'abord, premier réel, l'impact du smartphone sur moi-même, ma paix intérieure et sur mes relations immédiates.
Nous allons voir après la pause musicale les autres étapes que vous proposez, frère Tanguy Marie-Poulequin, dans votre livre Libéré, délivré de mon smartphone, 10 jours pour reprendre le contrôle aux éditions première partie.
Libéré, délivré, je ne mentirai plus jamais. Libéré, délivré, c'est décidé, je m'en vais. L'hiver s'installe doucement dans la nuit, la neige est reine à son tour. Un royaume de solitude m'a placé là pour toujours. Le vent qui hurle en moi ne pense plus à demain. Il est bien trop fort, j'ai lutté en vain. Cache tes pouvoirs, n'en parle pas. Fais attention, le secret survivra. Pas d'état d'âme, pas de tourment, de sentiments. Libéré, délivré, je ne mentirai plus jamais. Libéré, délivré, c'est décidé, je m'en vais. Et me voilà, oui, je suis là. Libéré, délivré,
présence. Vivante Église, Isabelle Duché.
Libérée, délivrée de mon smartphone, 10 jours pour reprendre le contrôle, c'est le titre du dernier ouvrage du Père Tanguy-Marie Pouliquen, prêtre des Béatitudes. Vous proposez, Père Tanguy-Marie, 10 étapes pour se libérer de son smartphone. Nous avons vu la première juste avant cette pause. La deuxième étape consiste à évaluer l'influence de son smartphone. Comment faut-il procéder ?
Alors, on a déjà un petit peu signifié, c'est ce plan quantitatif. Sur votre smartphone, vous avez... Le temps que vous passez, vous pouvez l'évaluer de manière quantitative, et puis vous pouvez voir si ça évolue, si ça baisse. Donc le temps long, déjà vous privez de votre smartphone, ça permet déjà de prendre un peu un recul. Le meilleur moyen, c'est de s'en passer quelques temps, et là on voit toutes les plages de temps qui sont occupées. Alors, par exemple, un petit geste concret, vous voyez, vous pouvez vous dire une soirée sans écran. Ah oui, et vous apercevez que les soirées sont bien longues sans écran.
Qu'on a le temps de lire.
Et qu'on a le temps de lire, mais en contrepoint, vous prenez conscience du fait que vous êtes imprégné par ce temps d'écran et que c'est une sorte de réflexe. Donc, par exemple, vous pouvez mettre à l'entrée de votre logement, vous mettez un sac, et il s'appelle le smartphone, et vous le mettez, et vous l'éteignez. Et comme ça, il y a une dissociation physique, matérielle. Moi, je connais une famille, là, j'ai discuté la semaine dernière. La règle familiale, c'est pas d'écran aux étages. Ils ont une maison, il n'y a pas d'écran aux étages. Donc les enfants et les parents n'ont pas le droit d'avoir d'écran à l'étage. L'écran, c'est en bas, la vie sociale. Et donc, vous voyez, pas d'écran isolé. Et c'est ce temps, vous voyez, évaluons le temps où nous sommes seuls par rapport à l'écran. 90% du temps face à un écran, on est seul. Oui. Et ça, prenons conscience que ce temps seul, il nous isole. Et c'est une perte de vraie vie. Hein.
Voilà. Et outre cette quantité de temps, il y a aussi la qualité, finalement, prendre conscience que ce smartphone m'éparpille, me disperse.
Oui, nous sommes, vous voyez, le Blaise Pascal, a mis en évidence combien les gens, finalement, sont dans une culture du divertissement, de l'éparpillement. Et cette culture de l'éparpillement, elle nous maintient à un niveau de relation à nous-mêmes plus superficiel. Tous les faiseurs d'opinion publicitaires sont là pour nous mettre en état de superficialité permanente, d'agitation, d'agiter nos passions, nos émotions, pour que nous puissions, d'une émotion, appeler une autre émotion, etc. Et il y a un phénomène qui est en boucle et qui ne s'arrête jamais. Alors que nous, si on se détache, on se libère, on se délivre, on se détache de notre smartphone, on revient à un état de connexion, non pas extérieur à nous-mêmes, mais à intérieur à nous-mêmes. Et à ce moment-là, on s'aperçoit qu'en nous-mêmes, c'est magnifique. On a une capacité de désir, une capacité de créativité, d'attention, d'intention, un imaginaire qui nous est propre et non pas suggéré, et qui est à nous. Et tout ça, c'est très nourrissant. Et investir cela, c'est très important. C'est pour ça qu'on dit aux enfants, pas de smartphone pour les enfants, parce qu'il faut qu'ils soient seuls avec eux-mêmes pour réinvestir leur propre imaginaire et à ce moment-là construire leur monde et non pas vivre dans un monde où ils externalisent leur propre existence, c'est-à-dire un écran.
Prier pour être éclairé est la troisième étape. À ce stade, vous insistez sur l'aide de Dieu et d'une personne de confiance. Pourquoi ?
Oui, c'est important d'abord de se mettre en face de Dieu. C'est pas négociable, hein, Dieu. Si Dieu existe, Dieu c'est Dieu. Dieu seul est le réel du réel. Donc seule la source du réel, le fondement du réel, va réaliser quelque chose de constructif dans notre vie. Donc Dieu, c'est pas négociable.
C'est pour ça que vous proposez chaque étape de commencer chaque étape par une prière.
Oui, par une prière. Alors bon, si on ne croit pas en Dieu, si on n'est pas encore assez à cette étape, avec les raisons qui nous sont propres, une personne de confiance, vous voyez, qui nous dit, là, ça ne te construit pas. Ouais. que les enfants écoutent leur maman, hein, leur...
Ça dépend jusqu'à quel âge.
leur papa, leur bons amis, leur tonton, leur tata, voilà, d'accepter, vous voyez, au sens propre, d'obéir. Obéir, ça veut dire obéir, et ça veut dire écouter un autre que soi-même. Vous voyez, et c'est là où l'enjeu de bonne lecture de la parole de Dieu, d'une parole de sagesse, d'un dialogue de qualité, permet d'évaluer là où on en est, d'évaluer là où on n'en est pas, et puis surtout de vouloir avancer. Vous voyez, seule la vie qui nous relie aux autres nous donne envie d'aller de l'avant. Donc, le mystère de la vie, c'est un mystère de rencontre, c'est un mystère d'unité, d'unité du genre humain, dit l'Église au plan sociétal, et donc d'unité de ce qui nous est propre, de tout ce qui nous est unique. Vous voyez. Alors, seul devant l'écran, on perd parfois son unicité, son identité, parce qu'on se compare. Vous voyez, donc ces problèmes, surtout des filles, sur Instagram et autres, elles se comparent et ça part en boucle dans un imaginaire comparatif. Et puis c'est pas bon.
Non,
mais c'est valable pour les adultes. On n'a pas à se comparer, on est unique, mais on doit se laisser attirer par ce qui nous fait grandir en relation, en proximité, de confiance avec les autres.
Voilà. Et justement, sur cette relation, vous proposez, plutôt que de se jeter sur son smartphone quand on est dans les transports en commun, de regarder les personnes, de prier pour elles, leur sourire, etc.
Oui, c'est-à-dire d'être dans le réel, ouais. Le réel de la rencontre. On pourrait dire d'être dans le réel de la bénédiction. Vous voyez, dans l'instant présent, on est béni par Dieu. Dieu nous bénit sans cesse. Il nous donne sa grâce, il nous donne l'être, il nous donne son amour. Et celui qui est en état de prière... un peu permanent ou d'intériorité, il reçoit cette vie de l'intérieur. La vie de l'intérieur, c'est une bénédiction. Ben, cette bénédiction, on la reçoit de l'intérieur. En nous, on la prolonge par un regard bienveillant, un sourire, un bonjour, un merci, un bravo, ou simplement un partage. Vous voyez, quelqu'un qui a une petite pièce qu'on peut donner, je dirais partager une friandise, se relier. Vous voyez, se relier. Oui. Alors que les gens dans les transports en commun, 90% à 8h30 le matin, ils ont la tête baissée. En Chine, on les appelle les tzizouzou. Ouais. Tzizouzou, c'est ceux qui ont la tête baissée. Voilà.
Ah.
Et en Chine, j'ai fait 10 ans de mission en Chine, et ils ont deux smartphones là-bas. C'est pire que chez nous. Hein. Voilà. On n'est pas les plus à plaindre. À plaindre sur ces questions technocratiques.
En tout cas, la prise de conscience est pour aujourd'hui. Hein. Mm-hmm. Le quatrième jour offre la possibilité de reconnaître ses faiblesses personnelles. Est-ce qu'il faut se faire aider pour cela?
Il faut d'abord être en vérité avec sa propre conscience. D'abord accepter qu'on est des êtres vulnérables, que la vulnérabilité n'est pas un mal en soi. Elle est constitutive de notre identité humaine, de notre malléabilité intérieure, c'est-à-dire notre capacité de progresser. Et donc, on est comme invité à d'abord faire un état des lieux, de là où il y a une forme de suggestibilité, c'est-à-dire une porte d'entrée d'influence. On est influençable et on est fragile. Et quand on est fragile, on peut se laisser emmener. Oui, j'hésite pas à aborder les problèmes radicaux de la pornographie.
Et
oui, voyez, parce qu'aujourd'hui, plus de la moitié des gens regardent de la pornographie. Et ça salit les yeux, ça salit les âmes, ça salit les enfants. Ça...
Et la relation aussi.
Et la relation, et donc... Et puis, ça marque, voilà. Donc, soyons en vérité par rapport au contenu que nous regardons. Et c'est pour ça que toute la pédagogie un peu de l'ouvrage, c'est d'inviter chacun à écrire sa charte numérique.
Hein. Ça, ce sera la dernière étape.
Et donc, que chacun librement se positionne, se donne ses limites.
Y a pas conscience.
En conscience, en fonction de son histoire, du bien qui va le faire avancer aujourd'hui. Mais soyons clairs. S'il n'y a pas de digue à Toulouse, la Garonne
déborde.
Elle déborde et historiquement, il y a des précédents douloureux.
Oui, c'est vrai. Et vous dites, frère Tanguy Marie Poulquin, dans votre ouvrage, qu'il faut élargir le sens de sa vie.
Oui, si le sens de ma vie, c'est simplement mon écran de 5 cm sur 10.
C'est limité quand même.
C'est limité, donc d'élargir le sens de sa vie d'abord un peu à l'extérieur. d'aller dans des lieux où on n'a jamais été. Donc, d'être ouvert à la nouveauté culturelle, la nouveauté des rencontres, des voyages.
Ça veut dire qu'il faut écouter son désir profond ?
Et il faut ouvrir son désir dans ce qu'il a envie de nouveauté, mais surtout de se mettre en marche, de se confronter. Oui, à des lectures différentes, à des journaux différents, pour sortir de cet entre-soi psychique, moi avec moi, dans mes croyances. Et ces croyances, ben, elles m'enferment dans ma chambre d'écho, dans mon miroir intérieur, dans mon Narcisse. Et on sait que pour Narcisse, ça finit pas bien, parce que à vouloir se regarder lui-même et vouloir être toujours renforcé dans l'image de lui-même, il finit par en mourir.
Et
voilà.
Oui,
ouvrons-nous. La vraie histoire d'Écho, c'est qu'en fin de compte, que les gens ne connaissent pas souvent, c'est que Écho, une jeune fille était amoureuse de Narcisse, et elle s'appelait Écho, elle ne pouvait pas dire son amour, elle a attendu que Narcisse lui dise son amour. En Écho, elle aurait pu dire son amour. Narcisse n'a jamais dit son amour. Écho est morte, et les dieux ont puni Narcisse d'être amoureux de lui-même.
Oui. La sixième étape de votre ouvrage invite à consentir à changer d'attitude. Et là, vous précisez que c'est important d'accueillir ces émotions.
Oui, d'accueillir ces émotions fines. Hein, parce qu'il y a des émotions, je dirais, comme la bière. Il y a la mousse et puis il y a le liquide. Oui. Donc on attend que l'émotion tombe pour boire le liquide. Le liquide, c'est ces sentiments profonds, c'est ces émotions profondes. C'est ces désirs profonds, vous voyez. En nous, on a une sorte de connaturalité entre nous-mêmes et l'appel de la vie. Donc on est fait pour le meilleur. Et plus on descend dans cette intériorité, qui n'est pas simplement l'essence qui se tourne à l'intérieur, c'est une vie intérieure, ça devient une vie spirituelle, et même parfois une vie mystique, où il y a une connexion entre la présence de Dieu et notre propre existence. Voilà. Et donc de ce lieu-là, il y a une ressource absolument abyssale, sans limite, et puis bienveillante, parce que c'est notre nature humaine, et puis c'est la volonté de Dieu, sa présence. Et à partir de ce lieu-là, le Dieu voulant le meilleur en nous, comme dit saint Irénée, nous sommes une créature inachevée, mais faite pour être en état d'achèvement. Cette dynamique des petits changements, c'est cette dynamique de processus de croissance, processus de changement, pas de changement seulement extérieur, comportementaux, hein, mais de l'intérieur vers l'extérieur, donc de la vie de surcroît qui trouve son geste, son incarnation sociale.
Et à propos de ce changement, vous citez le cardinal Newman qui écrit « Être parfait, c'est changer souvent ».
Oui, changer souvent, alors changer de l'intérieur vers l'extérieur, prendre des formes nouvelles. Alors lui, il est chrétien, il est même augustinien, c'est-à-dire le Christ est le formateur intérieur. Et donc, prendre des formes nouvelles, changer nouveau, c'est accueillir cette poussée de vie naturelle, surnaturelle, qui nous donne de changer de peau. Voilà, et de que notre vie soit un printemps. Voilà.
Vous avez évoqué l'écriture d'une règle d'utilisation, frère Tanguy-Marie. Comment ça se fait, cette écriture?
Cette écriture, elle se fait, moi je pense, d'abord par le bon sens, d'abord à partir de l'état des lieux de nos feux rouges.
Des premières étapes,
des transgressions. On s'est dit, là c'est trop, on me dit que c'est trop. Moi, je ne suis pas en paix, donc c'est trop. Et puis, je perds mon temps. D'ailleurs, d'un point de vue même du travail, je perds du temps. Je me disperse, je ne me sens pas en paix. Et donc, je vais mettre des limites. Alors, les limites principales, c'est d'abord de passer moins de temps. Alors, moi, j'aime beaucoup la première étape, c'est d'abord mettre son smartphone en gris.
Oui. L'écran gris pour être moins attirable, finalement.
Voilà, c'est immédiatement 30% d'interaction en moins.
C'est fou.
Alors, ils le font très bien maintenant, parce que moi, mon smartphone, il est en gris. Tout en bas à droite sur Samsung, il y a un petit bonhomme. Et donc, parfois, vous pouvez mettre en couleur tout de suite. Vous n'avez pas besoin de réenclencher tout le processus. Ouais. Et donc, ça permet d'être dans une posture de constance. Moi, je veux que ce soit en gris, parce que c'est que fonctionnel. Le gris,
voilà.
Ça veut dire
que
c'est un outil fonctionnel. Ouais. Et de temps en temps, si vraiment il y a un truc vraiment que la France a gagné la Coupe du Monde de foot et qu'on veut faire du cocorico, ben on se réjouit en couleur. Mais comme ça, on est libre de ce va-et-vient. Et puis voilà, c'est très bien comme ça.
Et puis vous proposez, par exemple, de décider dans cette règle d'utilisation de lire un article de fond jusqu'au bout.
Oui, c'est-à-dire de revenir à la lecture pour dire... approfondi, pas la lecture, je dirais, de 5 minutes, avoir un livre. Jean XXIII, le pape Jean XXIII, disait il nous faut au moins lire 10 minutes de bonne lecture par jour, vous voyez, de la bonne lecture, de la lecture. La lecture, c'est un cerveau qui est concentré, attentif, et qui laisse notre intention profonde, donc notre désir, être affecté, être touché. Et ça, ça nous transforme, ça nous réjouit, ça nous nourrit.
Ouais, voilà. Ouais. On termine par cette dernière étape qui est la décision de durer dans le détachement de son smartphone. Sur quoi repose cette décision ?
Ben, de notre intégrité personnelle, voilà. Isaïe 26, 9, l'intégrité, le chemin du juste. C'est nous-mêmes qui savons si on est honnête ou pas, voilà. On le sait, notre conscience nous parle, écoutons notre conscience, soyons doux aussi avec notre conscience, hein, ne soyons pas durs avec nous-mêmes, aimons-nous nous-mêmes, hein, estimons-nous nous-mêmes, même s'il y a quelques orages en ligne, mais pour avancer, oui. Le pape François a dit, la vie nous apprend que tout problème a sa solution, l'important c'est d'aller de l'avant, oui, aller de l'avant, toujours aller de l'avant, toujours un petit pas, c'est ça, finalement, décider de durer durablement.
Et voilà, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Père Tanguy Marie Pouliquen. Je rappelle le titre de votre livre, « Libérer, délivrer de mon smartphone, 10 jours pour reprendre le contrôle » aux éditions Première Partie. Évidemment, ce livre est disponible dans toutes les bonnes librairies et on se permet de citer au passage la nouvelle librairie Siloé Carmel, avenue Jean-Rieux à Toulouse.
Voilà.
Merci.
Au revoir et à bientôt. Au revoir.